Merci Michel. Donc, oui, il y a plusieurs points là, sans doute, les questions de frontières, les questions d'hierarchie, etc., qu'on pourra sans doute discuter de manière générale. Hein. Donc, effectivement, moi, je suis professeur en sciences de l'éducation, 70e section, donc, mais je suis biologiste de formation, et je travaille sur les questions de didactique des sciences de la vie, et de didactique des sciences et didactique des sciences de la vie pour le secondaire supérieur. Et je suis dans un laboratoire qui s'appelle STEF, Sciences, Techniques, Éducation, Formation, avec ma collègue Martine Pindorge, qui, elle, est en technologie. Voilà. Je fais partie de l'IFE, même si mon labo est à Cachan. Donc, voilà. Effectivement, à STEF, on travaille les questions de curriculum, c'est-à-dire organisation des parcours éducatifs en sciences des élèves. Et donc, la question des disciplines scolaires arrive dans cette question d'organisation et de reconfiguration des curriculums, parce qu'effectivement, aussi bien dans ce qu'a dit Jonathan que moi, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est d'avoir une approche dynamique et non pas statique, c'est-à-dire que c'est toujours en transformation. C'est toujours en transformation. Alors, les disciplines, abordé là, les questions de discipline scientifique avec les questions d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Il y a des projets dans lesquels c'est spécifiquement des demandes de pluridisciplinaires, dans lesquels on demande effectivement dans certains campus anglo-saxons. C'est plus facile parce que les gens se rencontrent plus facilement qu'en France. On a des campus universitaires qui sont des blocs séparés. D'un point de vue historique, on est constamment sur des reconfigurations et des déplacements disciplinaires. Donc, parfois, les mots portent, par exemple, biochimie, bioinformatique, portent encore ces reconfigurations en elles-mêmes avec ces mots hybrides. Hein. Moi, je poserai la question de discipline scolaire et plus particulièrement aussi les questions des relations entre discipline académique et discipline scolaire, sous lesquelles, en France, on est particulièrement... dépendant, si je puis dire, ou dans la façon dont on questionne les disciplines scolaires, on a une façon, en sciences, en particulier en mathématiques, en sciences physiques et chimiques et en sciences de la vie et de la terre, on fait des références très fortes sur les disciplines académiques. En technologie, c'est plus complexe. J'y reviendrai. Et donc, se posera la question de qu'est-ce que finalement une discipline scolaire ? Enfin, c'est pas arrivé à une discipline. Est-ce que finalement le terme de discipline n'est peut-être pas forcément... Pour l'école, j'y reviendrai, c'est utilisé que depuis le XXe siècle. Avant, on parlait plutôt de matière scolaire. Et je me demande si ce ne serait pas plus sain de revenir à des idées de matière scolaire que de discipline scolaire pour éviter cette confusion entre discipline scolaire et discipline académique. Les questions donc du coup de processus de scolarisation et de disciplinarisation et les questions de codisciplinarité ou d'interdisciplinarité scolaire. Je ne pense pas qu'on ait le temps vraiment de l'aborder dans mon petit exposé, mais sans doute qu'on en reviendra au moment du débat général. Donc, moi, je vais vraiment centrer ma présentation sur les questions de discipline académique, discipline scolaire et les enseignants spécialistes. Parce que très vite, dans discipline scolaire, il y a des aspects quand même sociologiques importants qui arrivent, c'est que c'est porté par un corps d'enseignants donc, qui ont été recrutés, il y a des associations de spécialistes, et c'est, disons qu'il y a dans l'idée de discipline scolaire, il y a aussi des aspects sociologiques très importants, qui se ressentent aussi, des aspects aussi même de corporation, hein, de corporatif. Il suffit de lire n'importe quel bulletin d'association, et c'est ça, il y a un aspect à la fois d'ouverture, mais aussi de défense qui interviennent. Alors, pour introduction, je vais rappeler... de manière pas trop rapide quand même, un travail qu'a fait dans le cadre de son master Aurélie Robert, dans le cadre du master à Cachan. Alors Aurélie Robert, dans le cadre de son master, a fait une enquête en 2008. Alors j'insiste, 2008, c'est-à-dire c'était le contexte de la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences. Hein, donc il faut vraiment le situer. Et donc dans le cadre de son master, là, elle a fait elle cherchait les représentations des enseignants de mathématiques, de sciences et technologies concernant les pratiques éducatives des disciplines voisines du pilier, disons, du pilier, de la compétence 3, mathématiques et éléments de culture scientifique. Donc voilà, donc elle l'a fait pas dans le cadre du master, donc... quelles étaient les ressemblances, les différences au niveau des pratiques qui étaient exprimées concernant la discipline des enseignants qui ont été interviewés et les représentations qu'ils avaient des pratiques des enseignants de disciplines voisines. Donc c'est à travers le discours que ces points communs et ces différences qu'elle a analysées concernant les pratiques et les représentations. Alors, elle a fait une étude de cas sur un collège, puisqu'en fait, c'était quand même le cadre d'un master, c'était quand même assez... Le temps était assez contraint. Et donc, elle a fait un entretien semi-directif dans un petit collège, dans lequel il y avait 4 enseignants. Disons que le nombre d'enseignants n'était pas trop important, donc avec une hypothèse que du coup, ils pouvaient peut-être mieux se connaître. Hein, ils avaient peut-être plus amenés à travailler ensemble que dans un collège plus important où il y a beaucoup d'enseignants de même discipline. Et donc, du coup, là, les relations même interpersonnelles sont moins faciles. Si un projet à faire, ça peut se faire à travers des enseignants, des équipes plus complexes. Donc, des entretiens semi-directifs de 4 enseignants portant sur les pratiques déclarées, les représentations des disciplines voisines et les perceptions de la mesure du socle commun, puisque là, on était dans 2008, l'entrée du socle commun. Donc, il faudra voir au niveau des résultats, ça a sans doute bougé, hein, là, parce que c'était... Voilà. Donc, elle a fait une analyse du contenu structurel et thématique des discours et elle a recherché les points communs et les différences entre les quatre enseignants. Alors, la schématisation. Donc, en fait, ce diagramme représente l'importance du discours, par exemple, au niveau du nombre de mots. Alors, plus 350, c'était sur le nombre de mots. Donc, la flèche bleue, si vous voulez, le diagramme bleu représente un peu l'importance du discours concernant les thématiques. Donc, globalement, tous les enseignants se sont exprimés de manière beaucoup plus importante sur leur propre pratique que sur les pratiques des autres. Et ils se sont quasiment très peu exprimés sur les socles communs de connaissances et de compétences 2008. Ils sont tous exprimés sur une attitude plutôt d'interrogation, mal connue ou perception positive. Je n'y viendrai pas là puisque ce n'est pas vraiment le débat de ce matin. Alors ici, le professeur l'enseignant de SVT, c'était un enseignant débutant et au niveau de ses pratiques, le discours a pu être analysé comme des pratiques très formalisées, résolution de problèmes, investigation. C'est un TZR débutant. On ne savait pas ce qui relevait vraiment de sa pratique ou ce qui relevait de l'influence de l'FFM. Il y avait un mélange à la fois de sa propre pratique et aussi du discours de ce qu'il faudrait faire. Au niveau du discours concernant les disciplines maths, SVT et technologie, à chaque fois, si vous voulez, il y a une forme de... Ils considèrent que les mathématiques sont une discipline importante, que les sciences physiques et les SVT sont proches. Il y a des éléments de discours sur l'évaluation des pratiques de manipulation qui apparaissent ou sur l'investigation. La technologie, mystère. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans nos études aussi. La technologie apparaît toujours comme mystérieuse. Alors, l'enseignant de technologie, c'est pareil, vous retrouvez toujours plus au niveau de... Alors, c'est un enseignant qui a eu un parcours différent aussi, puisqu'il il a travaillé dans le milieu industriel avant. Il a eu un parcours... Il est souvent dans le professeur de technologie ou un parcours un petit peu différent. Enfin, il y en a plus souvent dans ce domaine-là. Au niveau de son discours, c'est marqué par les pratiques sociales de référence. Pratiques sociales différentes, en particulier industrielles. Il a très peu de représentation des autres disciplines. Donc, finalement, il connaît mal les autres disciplines connexes du pilier. Le discours de l'enseignant en sciences physiques met dans son discours en avant les questions d'expérimentation, de manipulation. Donc, c'est quelque chose qui est mis en avant. Il considère aussi que une certaine ressemblance, une convergence entre les sciences physiques et les sciences de la vie et la Terre, justement par ce rapport au matériel, par ce rapport à l'investigation. Il considère aussi les mathématiques comme importantes, donc une forme de hiérarchisation. Et il considère qu'il peut être en conflit avec les technologies. Donc là, c'est pas l'ignorance, mais c'est une forme d'expression de conflit au niveau du territoire. Et le professeur de mathématiques... Il considère que sa discipline est la plus importante, soyons francs, hein, c'est-à-dire qu'une forme de... Et il connaît mal les autres matières, dans cette étude de cas. Donc, dans cette étude de cas, les collaborations des enseignants apparaissent limitées et superficielles, mais ça retrouve d'autres enquêtes, en particulier par questionnaire. Il y a plusieurs enquêtes concernant les voisinages et disciplines. Généralement, donc c'était 2008, une collaboration qui reste marginale, avec exprimer une forme de pratique. Si les pratiques sont rapprochées, c'est sur les sciences expérimentales, disons. Les pratiques, les programmes des disciplines voisines sont peu, voire pas du tout connus. C'est-à-dire que il faut vraiment, enfin, sauf si les enseignants ont des habitudes, ont dû des projets ensemble, évidemment, les programmes scolaires des classes qu'ils ont, sont des disciplines voisines, sont peu connues dans ce collège. Et la technologie reste mystère et conflit. Donc, concernant le socle commun de connaissances, peut-être que j'y passe parce que c'est très daté. Donc, voilà, dans le travail d'Aurélie Robert, on a retrouvé, en particulier, là, sur le voisinage disciplinaire fonctionne, c'est-à-dire que, bon, d'accord, on sait que c'est un peu les sciences, mais la voisinance est limitée. J'ai repris le terme de voisinance, j'ai repris le papier, là. C'est un terme québécois. Qui avait été pris par Joël Lebaume à propos d'une enquête qu'il avait conduite sur les enseignants de disciplines scientifiques au collège et leur connaissance de la technologie. Et il disait qu'effectivement, généralement, c'était juste un rapport de voisinage, c'est-à-dire que, d'accord, il est proche, il fait des choses proches, mais ce n'était pas de la voisinance, dans le sens que par voisinance, nous souhaitons souligner les interventions délibérées et volontaires que suppose une rencontre moins superficielle et qui engage avec une intention professionnelle négociée l'interaction avec les enseignants et leurs spécialités, c'est-à-dire à la fois comprendre des convergences, mais comprendre aussi des spécificités dans cette idée de spécialité. Et j'y reviendrai. Voilà. Donc on est sur un ensemble de cadres d'analyse de tension ou de paradoxe, ça dépend. Cadre d'analyse de tension, quand on parle de discipline, le ferme qu'il y ait un même mot, il peut y avoir une tension, une forme de confusion entre discipline académique et discipline scolaire. Une tension à ce que la discipline scolaire ait donné une représentation de quelque chose qui est immuable ou que c'est quelque chose qui est à construire, qui bouge. En particulier, les questions de compartimentation, décompartimentation. Hein, plutôt que de... C'est-à-dire que du coup, est-ce que l'on met dans des boîtes ou est-ce que de temps en temps on ouvre ces boîtes? J'y reviendrai. La question de... Est-ce que la discipline est immuable ou est-ce qu'elle est évolutive? Les questions de social, de valorisation, dévalorisation, de classification d'hiérarchie que tout à l'heure Martine a un petit peu abordé, qui dans le système scolaire joue et par le nombre de les points qui sont donnés, je sais plus comment, les barèmes qui sont donnés dans les examens, sur la façon dans un conseil de classe on donne la parole aux profs, dont on tient compte de ce que les profs disent, etc., dont la façon aussi des enseignants sentent une forme de hiérarchie ou pas. Est-ce qu'il s'agit de spécifier, de gommer des différences, d'unifier? Je dis ça par rapport à des discours dans lesquels on parle de la science ou bien des sciences. Donc, quand on parle, même je ne sais pas si c'est lieu, mais quand on parle de l'enseignement intégré de sciences au singulier technologie, ça pose question. Hein. Est-ce qu'il s'agit de juxtaposer, d'intégrer, de coordonner des disciplines? Et je pense que là, dans la codisciplinarité, vous allez avoir toutes ces questions de juxtaposition, d'intégration ou de coordination qui vont arriver. Alors, concernant discipline scolaire, je vais être comme Jonathan, il n'y a pas vraiment... de définition en tant que telle, mais il y a des paradigmes sur la façon dont on conçoit les disciplines. Je vais vous prendre l'exemple concernant transposition, soit l'approche plus transposition didactique, soit l'approche plus historique de Chervel. Dans transposition didactique, donc qui vient de Véré et Chevalard, approche didactique des maths, la question de la discipline scolaire, elle est vue comme une transformation d'un champ scientifique académique, de savoir savant en savoir scolaire, et donc c'est un modèle descriptif et interprétatif des transformations des savoirs savants pour permettre la scolarisation. Et donc, dans la transposition didactique, dans ce champ théorique, il y a une description entre un écart nécessaire entre des savoirs savants et des savoirs scolaires. Pour être scolarisé, il y a nécessairement des écarts entre les savoirs académiques et les savoirs appris à l'école. Donc c'est une vision, je dirais, plus descendante, avec une référence des disciplines académiques qui vont vers des disciplines scolaires. Bon, là, l'exemple qui peut fonctionner, ce sont les mathématiques, hein, qui a le même nom, d'ailleurs. On parle de mathématiques aussi bien pour les sciences scolaires que pour les sciences académiques. Pour d'autres disciplines, par exemple, alors Chervel, lui, est un historien des sciences. Lui, il parle plutôt des disciplines scolaires comme une nécessité d'une forme scolaire et qui répond à des finalités. Une finalité, c'est-à-dire que une discipline scolaire, c'est à la fois une finalité structurelle et une finalité fonctionnelle. Structurelle, parce qu'il faut bien, si vous voulez, qu'il y ait dans un emploi du temps, il y a des matières, voilà, il faut organiser. Et puis, fonctionnelle, parce qu'il y a aussi du coup des enseignants spécialisés qui vont avoir un certain champ de spécialité. Alors, Chervel, qui lui a fait son travail particulièrement sur l'étude de la grammaire, et il a montré que la grammaire n'était pas du tout une adaptation de la linguistique, une adaptation de théorie académique, si vous voulez. Ça correspondait, la grammaire, la stabilisation de la grammaire s'est stabilisée par un besoin scolaire à la fin du 19e siècle d'avoir des règles pour pouvoir apprendre l'orthographe. En particulier, on était fin du 19e siècle, donc la nécessité d'avoir du français partout, fin du 19e siècle, en France, et d'avoir des règles pour pouvoir maîtriser cet apprentissage du français. Et donc, la grammaire est ensuite rentrée dans l'université. Hein, mais au départ, c'est une création scolaire. D'une certaine façon aussi, il y a des créations scolaires, par exemple, les héros en histoire. En histoire, il n'y a jamais merde. Quand on est l'histoire scolaire, on crée des héros, on crée des récits qui sont assez éloignés quand même de l'histoire académique. Alors, il dit, lui, une discipline scolaire, c'est un système qui a quatre composantes, ce qu'il appelle la vulgate, c'est-à-dire un contenu de connaissances sur lesquels les spécialistes se organisaient, que les spécialistes ont sélectionné. Une nécessité d'exercice et d'activité scolaire qui font partie de la discipline elle-même, c'est-à-dire que pour être scolarisé, il y a une nécessité d'activité, et faisant de la discipline, il y a les activités d'exercice eux-mêmes, ce n'est pas simplement les contenus intellectuels, des pratiques de motivation et d'incitation à l'étude, et une nécessité d'évaluation. Il faut pouvoir valider et évaluer. Des contenus scolaires qui ne sont pas bien évalués, eh ben, historiquement, montrent qu'ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Discipline. Alors, je rappelle l'idée donc de discipline tout à l'heure que Jonathan avait évoquée, c'est-à-dire que dans l'idée de discipline, pourquoi à un moment donné on a pris discipline plutôt que matière ? C'est que dans discipline, il y avait l'idée de discipliner l'esprit en particulier. En France, on a une approche très intellectuelle de l'école. Hein. Dans d'autres pays, j'y reviendrai, les approches sont plus ouvertes. Hein. En France, on a une référence très, très intellectuelle et sur les savoirs textuels en plus. On donne une importance aux savoirs textuels qui sont historiquement, on peut l'expliquer, hein, et puis aussi d'un point de vue sociologique. Alors Michel Develay, donc, quand il met en avant l'idée de matrice disciplinaire, c'est qu'est-ce qui va permettre de matrice dans le sens de générer. Hein, moi, je suis biologiste de formation, donc c'est pas donné. C'est à la fois générer, donner une forme. En technologie, la matrice, c'est ce qui va donner une forme. En biologie, c'est plutôt ce qui va générer et qui pouvait donner une forme aussi si on était sur des théories préformistes. Donc, il va y avoir des usages de concepts propres, il va y avoir des pratiques théoriques spécifiques, il va y avoir des formes particulières de validation, et puis des outils, des matériels, des sources, des références. Je fais une remarque que du coup, j'en ai déjà discuté avec Michel Develay, il a une approche très intellectuelle, Michel Develay, des finalités. Et sa référence reste les sciences expérimentales. Si on est sur des disciplines comme les arts, particules artistiques, si on est sur le PS, si on est sur la technologie, si on est sur quelque chose qui s'appelait... Si, moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais plein air. J'avais plein air. C'était pas de discipline. Mais c'était inscrit à l'emploi du temps, c'était donc bien une matière. C'est-à-dire que dans les matières scolaires, il y a aussi des finalités qui peuvent être autres que des apprentissages, même si les apprentissages sont importants. Dans le plein air, ce qui est important, c'est la pratique, c'était de pouvoir maintenir aussi une forme d'activité corporelle quand on est adolescent. Et au niveau des contenus intellectuels, attention que les contenus intellectuels ne soient pas réduits à des savoirs textuels. C'est-à-dire qu'il y a aussi... C'est pour ça que nous, là-bas, on parle plutôt de contenu que de savoir. Parce que dans les contenus, il peut y avoir aussi des méthodes, des savoir-faire, des comportements, des attitudes qui ne s'expriment pas sous forme de savoir textuel. Je voulais aussi citer Jean-Pierre Astolfi là, dans son dernier livre, La saveur des savoirs, dans lequel il mettait l'importance justement des apprentissages et de l'importance de ce que peuvent apporter des disciplines dans une finalité, mais avec une approche aussi qui est aussi sur des finalités intellectuelles. Il montre bien que une discipline, c'est être juché, c'est un nain juché sur des épaules de géants. Et du coup, ça permet de comprendre le monde. Ça compartimente le monde. C'est des fenêtres qui permettent de comprendre mieux le monde. Mais effectivement, c'est pas des fenêtres données en elles-mêmes. C'est pas un découpage de territoire. C'est à chaque fois un questionnement théorique qui se remet en place complètement. C'est pas l'objet qui va définir une discipline. Tout à l'heure tu nous as montré, j'aime bien avoir ton image là, sur la façon dont on coupe le bœuf suivant les pays. C'est pas l'objet, par exemple, c'est pas le fait, par exemple, une jacinthe, on va dire, ah, c'est un objet biologique, c'est vivant. C'est un objet biologique si on se questionne avec un questionnement biologique sur les besoins, sur le cycle de vie, sur la croissance. C'est un questionnement technologique, si on a un questionnement sur la sélection, sur l'amélioration, sur la distribution, donc c'est pas l'objet, c'est aussi un objet technique et social, une jacinthe. Hein. Moi, je sais que Jean-Louis Martinan, qui a créé le labo, lui prenait tout le temps la vache comme objet technologique. Et donc voilà, moi je prends la jacinthe ou la tulipe parce que c'est la c'est la saison. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, donc effectivement, une discipline scolaire ou une matière scolaire, moi je serais plutôt à revenir à l'idée de matière, hein, parce que une matière n'est pas forcément une discipline, va pouvoir se caractériser par des objets, par des tâches, par des savoirs déclaratifs, des savoirs procéduraux et une matrice épistémologique. Voilà la matrice disciplinaire que propose De Velay. Il y a aussi, donc je vous dis, ce que Michel met moins de côté, c'est les finalités qui seront moins que des finalités d'apprentissage intellectuel. Et puis, les aspects sociologiques, c'est qu'en fait aussi, une discipline s'est portée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par un corps enseignant spécialiste avec un recrutement et avec qui s'organise après des aspects qui met en œuvre cette discipline. Hein, c'est pas... Et qui d'ailleurs l'a fait bouger, parce que c'est la façon dont après les enseignants enseignent. Que finalement, c'est ça qui est vraiment vivant. Alors, pour Abdelkrim Hasni, il y a eu un petit quick, excusez-moi, c'est un passage d'ordinateur à une autre, là, c'est à l'écran aussi, où il y a les 1 et les 2, là, qui sont un peu dédoublés. Il dit, il y a plusieurs façons, suivant les auteurs, donc souvent qu'on ait des approches plus épistémologiques, du côté du savoir scientifique ou des approches plus sociologiques du côté de la société ou des approches plus pédagogiques avec un pôle pédagogique institutionnel, on a des représentations de la discipline scolaire qui peuvent être différentes. Alors, ce que j'ai mis en pointillé de couleur mauve pour savoir scientifique, ce sont les approches typiquement plus de références dans lesquelles la référence discipline scolaire va être du côté des savoirs scientifiques et avec l'idée de, c'est la transposition didactique, hein, l'idée de pratique, enfin l'idée de référence qui se situe essentiellement dans les savoirs académiques. En sachant donc du coup, c'est un petit peu au niveau de transposition didactique même élargie, qu'il y a d'autres références, en particulier au niveau des pratiques sociales qui viennent des pratiques industrielles, des pratiques sociales, des pratiques culturelles, des pratiques domestiques. Ce que j'ai mis en bleu, turquoise, vert du côté de la société, C'est d'autres auteurs, en particulier des sociologues, Bernstein ou Forquin, qui disent attention, attention, une discipline scolaire, c'est d'abord le choix qu'une société trouve comme important de sélectionner dans un ensemble de contenus à transmettre dans une génération. Donc ils mettent en avant un choix de transmission, ce que la société va trouver important dans un moment donné à transmettre. Ce que l'importance de l'école dans le discipline et l'importance de la construction scolaire, c'est par exemple l'approche aussi de Chervel là, dans l'histoire aussi, mais c'est l'approche aussi de plus pédagogique d'une nécessité d'une construction scolaire pour construire une matière avec du matériel, avec des exercices, avec des formes d'évaluation, et que ce n'est pas simplement que des questions de savoir qui sont en jeu. Alors, ce qui est mis, alors Asni met, donc là j'ai mis en bleu, qui est mis en 4 et en bleu, dit ben finalement, une matière scolaire, c'est une rencontre de ces trois conceptions, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions épistémologiques et de référence, des questions sociétales de finalité, et des questions institutionnelles et d'organisation pratique du côté de l'école. Donc, les disciplines scolaires, ce sont des constructions historiques. Alors, pour l'exemple du collège, que Jean-Louis Martinan a participé, a été coprésident du GTD, sur lequel est arrivée l'origine de la technologie, d'une nouvelle discipline qui s'appelait technologie, Et donc, par rapport à ça, il dit, les disciplines du collège, finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, il dit, ce sont des montages, des compromis, des constructions historiques plus ou moins rationnelles, parce que quand il y a des discussions, heureusement qu'il y a débat, hein, pour prendre en charge certaines des missions affectées au collège pour une certaine durée, portées par les corps sociaux, que sont les enseignants dont l'exercice quotidien du métier infléchit grandement les prescriptions administratives. Donc, par rapport à discipline, moi, je vais basculer sur curriculum. Parce qu'en France, on a un curriculum qui est organisé en discipline. Mais ce n'est pas le cas dans les autres pays. Hein. Donc, on a une compartimentation très forte discipline en France. On est moins habitué à l'idée de curriculum. Or, il me semble que si on veut, à un moment donné, réfléchir et travailler sur les questions de pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité, codisciplinarité, pour les TPE, chez Ballard, il parlait effectivement de codisciplinarité. Il me semble qu'il vaut mieux avoir une approche curriculaire que disciplinaire. Alors, le curriculum, c'est un terme qui est encore assez peu employé en France, qui vient des anglo-saxons. Hein. Donc c'est une origine anglo-saxonne à visée sociologique et pédagogique dans les années 70 qui a été introduite en France par Forquin sur la question de la sociologie du curriculum. Donc il y a aussi un... Forquin, il y a un très bon livre aux presses universitaires de Rennes qui reprend un ensemble d'articles de sociologie du curriculum de Forquin. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous le recommande. Et ça a été développé après et complété par des travaux de didacticiens, des sciences, histoire, géographie. Le curriculum, c'est une des dimensions à la fois sociologique, politique, pédagogique et didactique. Donc c'est un élargissement des questions didactiques aussi. Didactique, ce n'est pas que simplement la didactique des apprentissages qui sont en jeu, quoi. Alors, de Lanchère en sciences de l'éducation, pour lui, alors si on aime bien en France donner des définitions, donc une définition, mais ce n'est pas une définition qui permettra d'être opératoire, il dit c'est l'ensemble d'actions planifiées pour susciter l'instruction comportant les objectifs, les contenus, les méthodes, les matériels, dont les évaluations, dont les manuels scolaires, les dispositions relatives à la formation des enseignants. C'est-à-dire que c'est tout un parcours, il y a une idée d'une visée éducative, l'idée de planification, l'idée d'instruction, mais il peut y avoir des curriculums qui ne sont pas scolaires. Hein. Il peut y avoir aussi des curriculums qui ne sont pas disciplinaires. On peut avoir, en ce moment, par exemple, à STEF, on travaille sur les questions d'éducation et développement durable. L'éducation et le développement durable, il y a un curriculum qui est possible, mais qui n'est pas disciplinaire. Donc, le curriculum, comme... voilà, alors je passe ça, parce que, puisqu'on me dit que... j'ai pas beaucoup de temps. Donc, la question du curriculum permet de questionner les questions d'éducation A, les questions des refondations des disciplines scientifiques telles qu'elles se posent actuellement avec les renouvellements de curriculum, les expérimentations de UST, les socles communs de connaissances et de compétences, les termes de convergence, enfin, toutes les questions aussi de prise en charge curriculaire des enseignements, donc des codisciplinarités, des convergences et différences, et les questions des spécialités des enseignants. Les spécialités des enseignants dans le sens d'une forme de spécificité, d'un champ d'intervention, d'un champ de responsabilité, mais qui peut bouger dans le temps. Alors, en France, le curriculum, il a à compartimentation progressive, c'est-à-dire qu'au primaire, alors je ne crois pas qu'il y ait, je pose la question, il n'y a personne du primaire ici. Hein. Au primaire, on a quelque chose qui n'est pas spécialisé, hein, qui n'est pas compartimenté. On a découverte du monde au cycle 1 et cycle 2, on a sciences et technologies au cycle 3, et au secondaire inférieur, c'est-à-dire au collège en France, on a une compartimentation stricte avec des disciplines SVT, physique, chimie, technologie et des professeurs de lycée et des professeurs de lycée et collège. Alors en disant en France, le terme qui dit généralement de polyvalent, bon c'est pas un terme que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Et puis au secondaire, un enseignement de physique de professeur de lycée et collège, je dis non, d'une discipline, mais d'une discipline scolaire. C'est pareil, la discipline scolaire, c'est pas forcément une monovalence, hein, physique, chimie, biologie, géologie, dans SVT, et les configurations de disciplines elles-mêmes sont très nationales. Par exemple, en Grèce, les sciences de la vie sont avec la chimie. Ailleurs, les sciences de la vie sont avec de la géographie, enfin la géographie et la géologie sont ensemble. Les modifications curriculaires qui conduisent sans doute à ce séminaire et à ce stage, c'est-à-dire toutes les modifications curriculaires qui conseillent, pas forcément à de l'intégration, parce que c'est ce qui est le plus difficile, mais au moins à des convergences, ou à de la coordination. Les parcours croisés, alors historiquement, les parcours croisés, les itinéraires de découverte, les TPE, mais ça montrait que ça restait marginal, c'est-à-dire que c'était des dispositifs, à la marge, on continuait à faire son enseignement, et à la marge, on avait un dispositif, pouf, qui essayait de casser un petit peu les compartiments. Les thèmes de convergence, bon, l'expérimentation UST, le socle commun de connaissances, tout un ensemble de modifications qui visent à moins de compartimentation. Avec des enjeux éducatifs et théoriques qui est sur la coordination des spécialités et pour enseigner à plus... Plutôt qu'enseigner, on dirait plutôt faire apprendre à plusieurs. Alors, ça, c'est pas sans poser des tensions dans le système lui-même. Est-ce que la logique du système est une logique curriculaire ou une logique disciplinaire? Alors, pour ça, je reprends une analyse de Sachaux, qui est un philosophe, qui a comparé finalement les matières scolaires, comment les matières scolaires en France et dans les pays anglo-saxons avaient émergé au cours du XXe siècle. Dans les pays anglo-saxons, on était dans une logique de sécularisation avec le protestantisme, et ce qui était mis en avant, c'était l'individu qui est une ressource, une conception de l'individu qui est une ressource pour la société, avec une importance d'intégration professionnelle, mise en avant des compétences, et l'acculturation et le fait en quoi l'individu pouvait être utile très vite à la société. Et on est dans un parcours de curriculum. Curriculum étant, et donc aussi des standards à la fin, étant aussi quelque chose d'assez ouvert, puisque même à la fin, on a des curriculums locaux. C'est-à-dire que même jusqu'avant les national curriculum des fins des années 80 en Angleterre, c'était chaque école qui pouvait construire son propre parcours. Hein, donc il y avait des adaptations locales très fortes. En France, on est dans une logique de laïcisation, laïque, avec une importance du catholicisme, même si c'est laïque, on a quand même une importance du catholicisme, et l'importance de donner à l'individu l'importance des lumières, avec l'importance d'un individu de la citoyenneté, de la rationalité et de la discipline. Et donc, la matière scolaire, le vecteur, c'est devenu la discipline qui doit discipliner l'esprit, et puis l'importance donc du coup de la République. Et donc la discipline scolaire qui, pour Sachaux, répond à, finalement à l'éducation républicaine, avec quelque chose de programmé, avec du coup, vous voyez, à chaque fois les tensions de ce que ça permet de faire d'un point de vue éducatif, mais aussi les limites. Je voulais aussi, donc du coup, j'aime beaucoup l'analyse qu'a fait Alistair Ross, qui est un sociologue du curriculum écossais, qui a travaillé sur les curriculums anglais et qui a analysé qu'est-ce qui pouvait piloter les constructions curriculaires. Donc il a analysé les curriculums anglais et il a montré que suivant les finalités des curriculums, il y avait trois types de pilotage. Et il prenait des métaphores de jardin que j'aime beaucoup. Il disait qu'il y avait les content-driven curricula où ce qui pilote, ce sont les connaissances. Et il prenait la métaphore du jardin à la française, avec des bosquets bien taillés, etc. Donc c'est très structuré et puis très compartimenté. Il disait qu'il y a un autre type de curricula, et ce qui était plutôt pour les destinés aux classes sociales privilégiées en Angleterre, les content-driven curricula. Il disait qu'il y avait les objective-driven curricula qui étaient... Lui disait c'est les Dick and Doug, les jardins Dick and Doug, c'était les jardins qui étaient pris après la guerre, l'équivalent des jardins ouvriers, c'est-à-dire des jardins potagers, dans lesquels on a quand même une visée assez utilitaire de récolter quelque chose. Et donc là, ce qui est mis en avant, c'est les compétences. Et puis, les derniers types de curricula, les process-driven curricula, où il dit là, l'exemple, c'est le jardin à l'anglaise, c'est le plus beau, mais c'est le plus difficile, c'est le semi-naturel. C'est le plus difficile, où là, ce qu'on met en avant, c'est l'expérience scolaire de ce que l'on va faire vivre aux élèves. Donc, j'arrive aux conclusions, fort qu'à vous lirez. Il me semblait qu'il y avait deux grands éléments pour débattre. Donc, dans discipline, il y a à la fois des tensions épistémologiques et des tensions sociales. Il y a des questions de spécificité et des questions de spécialité. Il y a des questions de transformation et de reconfiguration qui a sa place si on a une vision dynamique. Je pose la question des géographies, des proximités, des distances entre disciplines scolaires. Et Bernstein, lui, il trouve que les disciplines empêchent de penser. Il lui serait pour une approche supradisciplinaire. Donc, par rapport à ça, plutôt qu'une approche disciplinaire, on peut, en utilisant toujours discipline, avoir quand même l'idée de système curriculaire. C'est-à-dire avoir l'idée d'un système curriculaire, de discipline, d'actions éducatives non disciplinaires, par exemple les éducations A, des projets, et des moments d'intégration pluridisciplinaire. C'est-à-dire que comment, dans un système parcours éducatif, tout ça s'articule. Des formations disciplinaires, des actions éducatives non disciplinaires, et des moments d'intégration pluridisciplinaire. Et avec, alors moi, je me permets de me citer, excusez-moi, mais ce qui est important, c'est du coup, à bien voir, moi je disais, distinguer pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir converger, c'est-à-dire d'être à la fois... De ne pas être simplement sur qu'est-ce qu'on fait, d'être sur les convergences, de ne pas être simplement sur qu'est-ce qu'il y a de pareil, mais d'être aussi de qu'est-ce qui nous spécifie, qu'est-ce qu'on a de différent dans nos types d'enseignement, et donc pouvoir à la fois distinguer, converger et être en complémentarité pour être sur des relations de coopération et de coordination. Et donc, deuxième type de débat, si on veut coopérer et pouvoir être sur des convergences, se pose la question des outils. Et comment favoriser une plus grande articulation, sur cette codisciplinarité, ça veut dire aussi une articulation, une coordination, et qu'est-ce qu'on s'échange? Et comment ça se passe au niveau des lieux, des contextes? Est-ce que c'est en commun? Qu'est-ce qui peut être commun? Qu'est-ce qui peut être spécifique? Des méthodes, des concepts, des outils? Et voilà.
Bonjour, Sabine, professeure de SVT, je suis détachée pour l'IFE. Et en fait, moi, non, j'ai pas vraiment une question, mais j'ai une réaction parce que j'avais jamais vu ça sous cet angle, l'aspect de discipline scolaire, de choix des contenus par rapport à ce qu'on souhaite transmettre aux générations d'après, quoi. Et voilà, je voulais savoir, peut-être avoir un petit peu plus, d'éclairage, un petit peu.
Là, c'est tout le travail de la sociologie du curriculum. Il faut que tu regardes Forquin. C'est à chaque fois, c'est pourquoi à un moment donné on sélectionne. Parce que du coup, si on rajoute, on peut pas non plus, par exemple dans l'organisation d'un curriculum, constamment rajouter. C'est-à-dire qu'il faut aussi retirer des choses. Et donc, c'est comment se font ces choix. Et ça exprime des choses de la société. Après, il y a l'organisation. Il y a des aspects plus organisationnels donc du coup, est-ce que ça déforme discipline ou pas? Ça, c'est plus organisationnel. Mais la question de sélection des contenus et par qui c'est fait, voilà, c'est toute la tradition de... Moi, je voulais un petit peu... Excuse-moi, je voulais un petit peu... Parce que en vous entendant... En France, il faut être bien clair, je suis passée par là. Hein, moi, je suis professeure de SVT au départ. J'ai passé une grecque de SVT. On est très formaté par la discipline et par les concours. Les CAPES, la grecque, etc. La façon dont les concours sont faits. Je dis ça d'autant plus que j'ai participé à un jury de thèse de Marie-Claude Bernard qui a passé sa thèse au Québec. Et qui était sur les parcours biographiques des profs de SVT en France et des professeurs de biologie au Québec. Et il y a une différence très grande entre pourquoi les gens deviennent professeurs de SVT en France et pourquoi ils deviennent professeurs de biologie au Québec. Il faudrait revenir dessus, mais il faut bien être conscient qu'on est aussi porteur de cette histoire. Hein. C'est-à-dire que du coup, dès qu'après on parle discipline, on a parfois des actions un petit peu de réaction, etc. Parce que en France, les professeurs de SVT, ils sont décidés, parce qu'ils ont voulu généralement devenir professeurs de SVT, parce qu'ils voulaient enseigner leur discipline. Et l'important, parce qu'ils aimaient leur discipline. Ils voulaient faire des sciences de la vie. Un peu moins de la géologie. En gros, c'est ça. Au Québec, ils sont devenus professeurs de biologie parce qu'avant tout, ils voulaient devenir enseignants. Et du coup, et puis du coup enseignant de sciences, pourquoi pas, mais il voulait avant tout devenir enseignant. Et les parcours de sélection, enfin, du coup la façon de formation sont différents. Et ça, voilà, ça déconcentre ce que disait aussi Jonathan, on a quand même des relations de discipline qui nous ont formatés.
J'avais juste une petite remarque, Jonathan Gallou, enseignant en SVT également, par rapport au formatage justement de nos disciplines, j'avais une petite remarque par rapport à un champ théorique que nous avons analysé dans le cadre de nos études, c'est la tectonique des plaques justement. Où là, j'ai plutôt l'impression que c'est un champ qui nous a obligés, au contraire, à voir les autres disciplines. Et finalement, on s'aperçoit, dans ce cadre géologique, qu'on nous a obligés, et on a été obligés, de regarder à la fois vers l'histoire des sciences, mais aussi nos collègues géographes, nos collègues chimistes, nos collègues physiciens, pour justement pouvoir appréhender cette théorie. Donc je me dis, est-ce que finalement, nos matières sont si cloisonnées que ça lorsque le champ théorique nous oblige à regarder ailleurs?
Parce que vous parlez bien de l'enseignement de la tectonique des plaques et non pas des recherches sur la tectonique des plaques. C'est-à-dire que la tectonique des plaques dans les programmes scolaires SVT, c'est pour ça que moi, quand je parle, je dis toujours SVT, sens de la vie de la Terre, qui est bien la discipline scolaire. Mmh. Effectivement, ça a été reconfiguré, et ça a puisé un petit peu partout. Parce qu'au niveau tectonique des plaques, au niveau champ scientifique, ce sont des géophysiciens.
Et quand on regarde dans différents pays, d'ailleurs, la tectonique des plaques n'est pas toujours enseignée par les enseignants de sciences de la vie.
Parfois, c'est la géographie, oui.
Ou la physique. Selon les pays, c'est la physique, la géographie ou la géologie. En convergence, elle éclaire un nombre de faits importants, mais des faits de nature différente, en fait. Et c'est pour ça que les disciplines différentes s'en accaparent, parce qu'elle éclaire des faits géologiques, des faits géographiques, des faits chimiques, des faits... et elle met en convergence, elle met... en cohérence, c'est des faits qui sont issus, me semble-t-il, de disciplines différentes. Il y a peut-être pour ça qu'après, on peut l'étudier et l'aborder dans des champs différents, en fait.
Oui, moi, je voudrais savoir si l'évolution du système, l'évolution des disciplines est institutionnalisée avec un suivi, avec des responsables, avec des gens qui donnent des impulsions, je ne sais pas.
Après, là, ce que vous posez, c'est après, le système scolaire lui-même, il dépend de la politique éducative. Donc après, les choix dépendent des politiques éducatives, effectivement. Donc après, il y a des choix de politique éducative, politique au sens large, hein, c'est-à-dire la société. Les questions, vous êtes bien vu, les questions d'éducation reviennent importantes d'un point de vue politique. Moi, je voulais simplement signaler que le socle commun de connaissances et compétences, 2005, ça a été une loi. C'est la première fois qu'il y avait une loi concernant l'éducation qui était de nouveau votée en France. Il fallait remonter à Jules Ferry pour que ça devienne une loi. C'est-à-dire que ça a été discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, c'était simplement le gouvernement qui faisait. Et donc, la loi de 2005, c'est la première fois que, concernant l'éducation, ça a été discuté au niveau de l'Assemblée nationale et que, du coup, aussi, il y a eu des suivis aussi au niveau... Il y a des commissions au niveau du Sénat et au niveau du Parlement. Sinon, c'était que le gouvernement. Voilà. J'insiste parce que c'est quand même important. Du coup, par les représentants que sont les députés, il y a une discussion de plus politique, hein, au sens des choix sociaux.
Avec des politiques qui ont été menées différemment, puisqu'il y a eu la période où il y avait le groupe national des programmes qui avait incorporé des enseignants, des formateurs, des inspecteurs généraux. Il y a d'autres périodes où c'est que les inspecteurs généraux. Donc il y a eu des évolutions aussi sur les personnes qui décident. Donc apparemment, Jonathan, tu voulais poser une question.
Oui, je voulais...
Une dernière question de Jonathan.
En fait, c'est quelque chose que tu viens de soulever, mais c'est quelque chose qui revient. Donc, on a quand même, dans notre master, on a pas mal d'enseignants qui ont donc souvent des idées géniales avec les approches très innovatrices. Mais il me semble qu'il y a toujours donc le même problème qui est posé, qui est le problème d'évaluation. Donc, en fait, tout ce problème de curriculaire et la flexibilité curriculaire, c'est souvent donc l'écueil de tout changement. C'est pas tellement donc la bonne volonté des enseignants, c'est souvent donc l'évaluation, qu'il n'y a aucun enseignant qui veut que ses étudiants, ses élèves soient donc désavantagés parce qu'ils sont pas prêts pour l'évaluation qui est en place. Donc est-ce que l'évaluation finalement renforce donc les disciplines ou donc est-ce qu'il y a des modes d'évaluation qui existent en France qui valorisent des objectifs qui sont codisciplinaires ou transdisciplinaires?
Les formes, les contenus et les usages de l'évaluation, des évaluations sont extrêmement importantes. Pour vous donner un exemple, avec Martine, on avait travaillé sur Bancouti à un moment donné, qui existe encore en ligne quelque part, mais il faut le trouver, parce que c'est un petit peu, et qui étaient des exercices étaient des exercices interdisciplinaires, sciences techno. Donc il y a des. Ça dit des choses, c'est-à-dire alors, les questions d'évaluation, les questions de certification, c'est autre chose. Le débat qu'il y a sur le bac actuellement, on dit quelque chose. C'est vrai que les outils, alors les choses sur le livret de compétences, c'est encore autre chose. Mais dans une organisation de matière scolaire, les formes, les contenus et les usages de l'évaluation disent beaucoup de choses sur les évolutions du curriculum. Merci, et puis bon séminaire.
Oui.
Mais c'est bien de se retrouver différents et de pouvoir parler ensemble, parce qu'on n'a pas toujours le temps. C'est malheureusement une contrainte dont je n'ai pas beaucoup parlé là parce que j'avais des contraintes de temps. Mais c'est que on parle toujours des curriculums prescrits, etc. Et souvent, on sous-estime les contraintes qui sont des contraintes de temps, des contraintes d'espace, des contraintes du dispositif. Voilà. Et après, on renvoie ça à la bonne volonté des gens. Bon séminaire. Merci à vous.